They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家
正忙着。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Requigny, mais aussi Xavier Martinet, Clément Salazar, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Jean Frédérics. On poursuit notre série consacrée aux politiques culturelles et aujourd'hui on va s'intéresser à la ville, aux villes de Bilbao à Nollywood, quand la ville joue la carte de la culture.
La mission du musée Guggenheim à Bilbao consiste à exposer de l'art moderne et contemporain. Notre particularité est que notre collection permanente peut puiser dans les fonds de chaque musée Guggenheim.
Le musée vise une clientèle internationale. Notre projet est fondamentalement tourné vers le visiteur.
Depuis que j'ai conçu ce musée à Bilbao, des gens viennent dans mon bureau et veulent m'embaucher pour que je reproduise l'effet Bilbao. Et quand je leur demande quel est leur programme, quelles sont leurs infrastructures, quel est leur budget, leur calendrier, ils me disent « Ne vous en faites pas, on verra ça après. Faites juste l'effet Bilbao. »
Faites juste l'effet Bilbao. Bilbao, première ville au monde où un musée monument, en l'occurrence le musée Guggenheim, imaginé par l'architecte américano-canadien Frank Gehry qu'on entendait à l'instant, a été un formidable accélérateur de développement, souvent considéré comme un modèle du genre, copié, recopié par des dizaines de villes désireuses d'attirer touristes et investisseurs grâce à des initiatives culturelles. Un an après son ouverture, en 1998, 1,3 million de visiteurs se rendaient déjà au musée Guggenheim de Bilbao, imposant une structure de titane devenue l'une des grandes destinations européennes à la mode. Si le Paris paraissait osé à l'époque, plus de 15 ans plus tard, le succès ne s'est toujours pas démenti et la ville s'est transformée en une cité moderne et prospère, lieu d'exposition des plus grands artistes contemporains. Alors quelles sont les recettes du désormais fameux effet Guggenheim ? Fonctionne-t-il toujours et quelles que soient les villes ? Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un musée, une biennale ou un festival permettent un développement économique de certains quartiers, voire d'une ville tout entière ? Au même moment, dans les années 80-90, sont apparues les premières capitales européennes de la culture. Après Athènes, pionnière en 1985, on se souvient de Lille qui, en 2004, à travers une politique culturelle volontariste, cherchait à s'affirmer en tant que métropole qui compte dans un contexte général de transition post-industrielle et puis plus tard, plus récemment encore, en 2013 avec Marseille. Alors qu'a changé l'organisation de cet événement ? En quoi cela permet-il d'accompagner la transformation des villes ? Et plus généralement, qu'est-ce que la culture et ceux qui la font, les artistes, peuvent pour le développement économique des territoires ? L'installation d'artistes dans les quartiers populaires permet-elle vraiment une valorisation de ces quartiers ? En compétition croissante, les villes continuent de miser sur la carte culture, mais le modèle n'est-il pas en train de s'essouffler ? Voilà un certain nombre de questions qu'on va évoquer ce matin. On partira du côté des rues de Lagos, où est née une industrie extrêmement prolixe, Nollywood, la deuxième industrie cinématographique au monde après Bollywood, le cinéma indien. On retrouvera tout à l'heure Alexandre Jedlovski. Et puis direction également la Chine et ses vieux quartiers créés de toutes pièces pour attirer les touristes. On en parlera avec Françoise Lovart. Mais pour nous accompagner dans cette matinée autour de ces villes qui jouent la carte de la culture, on a invité Elsa Vivant. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en urbanisme à l'école d'urbanisme de Paris. Quand on pense, Elsa Vivant, bien sûr, à ce que peut la ville pour redynamiser des quartiers et comment finalement la culture peut être un outil de cette redynamisation, on pense évidemment à Guggenheim et ce fameux effet Guggenheim après avoir été plongé dans le marasme à cause de l'effondrement industriel de la région. Bilbao est parvenu à engendrer toute une activité économique autour donc de la construction de ce musée. C'est donc ce qu'on appelle l'effet Guggenheim. Alors il faudra voir peut-être ce qu'il y a exactement derrière, mais pour rappel quand même pour les auditeurs, tout a commencé dans les années 80-90 quand le gouvernement basque et le conseil général de Biscaye se dit que la culture peut constituer l'une des voies pour sortir la capitale basque du marasme hérité de la période franquiste. On a Joseba Arregui qui est à l'époque le ministre chargé de la culture au gouvernement basque et puis Juan Luis Lascurain, le vice-président chargé des finances et Juan Ignacio Vidarte qui est le directeur de la politique fiscale et financière de la province qui se disent que ça serait une bonne idée. C'est devenu un véritable modèle pour les urbanistes. On peut dire que Cette initiative, Elsa Vivant, vous qui êtes urbaniste, constitue une véritable rupture en la matière, non? C'est toujours le modèle, l'exemple qu'on prend.
C'est toujours l'exemple qu'on prend. Ce n'est pas forcément une rupture, mais c'est plutôt le symbole d'un tournant. Mmh. Parce que cet intérêt porté à la création d'équipements culturels considérés comme des éléments de stratégie urbaine, sont des choses qu'on voit apparaître à partir des années 80. Mais ce qui est intéressant avec le cas de Bilbao, c'est que c'est un cas qui est un double tournant, ou qui symbolise un double tournant. Le tournant des villes qui vont déployer des approches entrepreneuriales de leur développement en définissant des stratégies, en identifiant des objectifs, des cibles et en mettant en œuvre des projets pour les réaliser. Et là, il ne faut pas oublier que la création du musée s'inscrit dans un grand projet urbain de requalification de friches industrielles ou portuaires, dans un contexte espagnol qui a connu dans les années 90 un redéveloppement urbain très très fort avec les exemples de Séville et de Barcelone, de Valencia, où dans la période de démocratisation post-Franco, une certaine euphorie économique s'est traduite par des développements urbains très forts, des stratégies de développement urbain très spécifiques, orientées ou articulé avec l'organisation de grands événements. À Séville, c'était une exposition universelle. À Barcelone, c'était les Jeux Olympiques de 92. Donc Bilbao s'inscrit un peu dans cette histoire espagnole.
Vous parlez de ville entrepreneuse. Il faut aussi peut-être mentionner le fait que c'est aussi un moment où on note une sorte de désengagement politique et financier, en particulier des États, des pouvoirs centraux. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle les villes vont être poussées à devenir ces villes entrepreneuses, non ?
C'est vrai, surtout dans le cas français où on a le contexte de décentralisation dans les années 80 qui fait que les collectivités locales deviennent compétentes en matière de développement économique et d'urbanisme et donc elles vont devoir s'équiper, se construire une doctrine et définir leur propre politique, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Dans d'autres contextes, notamment les contextes anglais et américains, on ne peut pas vraiment forcément parler d'un désengagement de l'État. En tout cas, ça ne se pose pas forcément ces termes-là. Par contre, les effets de la désindustrialisation poussent les collectivités locales à trouver des nouvelles formes de croissance économique en misant sur les services.
Quelles sont les quelques villes pionnières notables un petit peu en la matière ? Parce que vous disiez un tournant, pas forcément une rupture. Quand je regardais, quand j'ai préparé l'émission d'hier, quand je regardais les quelques articles au moment où Bilbao a été ouvert, il y a beaucoup d'observateurs qui disaient c'est un pari un peu fou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y croyaient.
C'est un pari un peu fou parce que Bilbao, c'est une petite ville qui est méconnue, qui est éloignée des grands centres métropolitains, qui est peu accessible et qui n'a pas d'infrastructure touristique. La création du musée va enclencher le développement d'une offre touristique et d'une fréquentation touristique qui n'existait pas. Et en ça, oui, c'était un vrai pari. Après,
On peut quand même noter qu'à côté Saint-Sébastien, qui est quand même un pôle touristique et qui probablement est l'un des éléments, mais vous allez nous le dire, mais l'un des éléments de ce succès quand même.
Je pense pas. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un effet marque. Et c'est là le deuxième tournant que symbolise en fait la création de ce musée à Bilbao, c'est le tournant entrepreneurial aussi des musées eux-mêmes, en tout cas des grandes institutions muséales. Hier, vous avez parlé du Louvre à Abu Dhabi qui déploie une stratégie de développement tout à fait nouvelle et qui n'est pas si singulière quand on la met en perspective avec d'autres grandes institutions. La Fondation Guggenheim était la première grande institution culturelle à vraiment prendre ce tournant entrepreneurial, de réfléchir au développement de son institution, notamment à travers la création d'antennes. Donc c'est en ça pour moi que Bilbao est un double tournant. Après, les années 90, c'est vraiment un moment où dans le monde de l'urbanisme et dans le monde des acteurs publics locaux, se développe une croyance, une conviction que ce qui sera moteur de croissance pour les villes, c'est d'améliorer la qualité des services et des offres, de l'offre de services, notamment l'offre culturelle, à destination d'habitants ou de visiteurs pour attirer des entreprises. Et la création du musée, elle s'inscrit dans cette croyance.
Qu'est-ce qui vous semble constituer les principaux ingrédients de cette réussite ? On parle beaucoup de l'architecture, une architecture un peu iconique. Au fond, on va au musée aussi pour voir à quoi ressemble le bâtiment, mais évidemment, les collections qui sont à l'intérieur sont importantes. Mmh. Mais qu'est-ce qui vous paraît décisif dans la réussite de ce projet ?
Le premier élément le plus important, c'est qu'il n'y a pas qu'un musée. C'est qu'on est vraiment sur une stratégie globale de transformation de la ville avec la transformation d'un ancien site industriel pour en faire autre chose. Et le musée est le symbole de ça. Mais il n'est pas l'unique action. Il s'inscrit dans un projet beaucoup plus global. Et c'est aussi ce qu'on va voir dans d'autres territoires où les effets sont moins spectaculaires, peut-être parce que ce qui était recherché était d'une autre nature, mais où on va avoir des réflexions globales de transformation des villes et où la création d'équipements culturels ou la transformation par la culture de certains sites ou l'organisation d'événements s'inscrit dans une approche globale, à la différence d'autres tentatives où on mise tout sur la création de l'équipement sans l'inscrire dans une approche globale.
Et de ce point de vue-là, alors si on regarde par exemple le cas français, parce que la question c'est de savoir aussi si on peut transposer cette chose-là. Est-ce que le MUCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, du côté de Marseille, qui était aussi, on sait, ville capitale européenne, mais on en parlera tout à l'heure, est-ce que le MUCEM est à Marseille ce que le Musée Guggenheim est à Bilbao ?
Marseille est quand même pas tout à fait comme Bilbao. On ne peut pas vraiment comparer les deux.
Mais dans la stratégie de développement des territoires ?
Un peu parce que le MUCEM s'inscrit lui aussi dans un grand projet urbain qui s'appelle Euroméditerranée, qui vise à transformer les anciens territoires portuaires du centre de Marseille en un nouveau quartier urbain, très orienté autour d'une offre de services et de logements de standing, avec la requalification du port et ce qu'on appelait les terrasses du port en un espace de loisirs et de consommation. Et le MUCEM, le musée du MUCEM, s'inscrit dans ce grand projet de transformation du centre de Marseille. Mais pose aussi, ce projet urbain pose aussi un certain nombre de questions et est très discuté localement.
Alors, il y a Bilbao, mais si on regarde dans la période récente, on voit qu'il y a encore des villes qui voudraient s'inspirer de ce projet. C'est le cas par exemple de Helsinki, parce qu'il y a un nouveau projet de la Fondation Guggenheim pour la constitution d'un musée à Helsinki. L'année dernière, c'est d'ailleurs un cabinet d'architectes franco-japonais qui a remporté l'appel d'offres. C'est l'agence Moro Kuzunoki Architect. Voilà, c'est important de les mentionner. Mais visiblement, tout le monde n'est pas favorable à ce projet. Et en particulier, j'ai vu qu'il y avait des collectifs d'artistes finlandais qui s'opposent et qui ont même proposé un projet alternatif.
Alors, ce qui est très intéressant avec ce cas du projet Guggenheim Helsinki, c'est qu'il est porteur d'une controverse. Une controverse qui est globalisée. Parce que les acteurs de cette controverse ne sont pas que des habitants ou des artistes d'Helsinki, mais sont aussi des intellectuels new-yorkais qui ont constitué avec ces artistes finlandais un collectif pour proposer une alternative à la création d'un musée Guggenheim. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'annonce du musée de Bilbao, il y a dû y avoir une quinzaine d'annonces de création de musées Guggenheim qui ne se sont jamais faites. Rio, Vienne, Taipei, Guadalajara. Et à chaque fois, on aboutissait quand même à un projet architectural, mais ça n'allait pas plus loin. Donc on a aussi un effet d'annonce de montrer qu'on développe des projets, mais ces projets ne se font pas, à part celui d'Abu Dhabi, à ma connaissance. Dans le cas de Helsinki, en fait, il y avait eu un premier projet en 2011, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire ce sont les collectivités locales, donc là en l'occurrence la municipalité d'Helsinki, qui sollicite la fondation pour faire une étude de faisabilité, essayer d'imaginer la pertinence de l'installation d'un musée Guggenheim, quel serait son programme, parce que la fondation Guggenheim, elle n'a pas non plus une collection qui lui permettrait de s'éparpiller dans le monde entier, donc à chaque fois ce sont des musées qui accueille des expositions organisées par la Fondation, mais aussi d'autres expositions d'artistes locaux, ou en tout cas avec une autre spécificités. Et dans le premier projet de 2011, parmi les arguments qui intéressaient la Fondation Guggenheim, il y avait la proximité avec la Russie, avec Saint-Pétersbourg, et donc le monde et le marché de l'art contemporain en Russie. Depuis 2011, la situation s'est un petit peu tendue avec la Russie. Donc pour la Fondation Guggenheim, c'est un petit peu moins intéressant. Et en fait, dans le deuxième projet, celui qui date de 2015, le projet est essentiellement porté par les acteurs économiques d'Helsinki et auxquels s'oppose ce groupe d'intellectuels, donc des chercheurs, des universitaires américains, qui eux s'opposent même à la politique de la Fondation Guggenheim, cette politique expansionniste, en prenant le projet de Guggenheim à Abu Dhabi comme un peu le fer de lance de leur contestation, en mettant en question les conditions de travail sur les chantiers, le principe même de la création ex nihilo de cette nouvelle ville touristique dont vous avez sans doute parlé hier. C'est au motif de ce projet Guggenheim à Abu Dhabi qu'ils se mobilisent contre les autres projets Guggenheim, et notamment celui de Helsinki, pour lequel ils ont organisé un concours d'idées alternatives.
Alors ça, c'est pour effectivement les intellectuels, d'une certaine manière, mais pour les habitants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet ?
Alors je pense que c'est... a priori, je dirais qu'on a des avis contradictoires. Les milieux artistiques locaux à Helsinki sont plutôt opposés à ce projet qui, finalement, ne leur est pas nécessairement destiné.
À eux, ne leur apporte pas grand-chose.
Ouais. Voilà, ne leur est pas destiné. Ouais. Après, concernant la population d'Helsinki, ça, je ne peux pas vraiment...
Alors, je le disais tout à l'heure, je parlais dans l'introduction des capitales européennes de la culture. Depuis 1985, maintenant, chaque année, le Conseil des ministres de l'Union a choisi une grande ville d'Europe sur la base d'un programme culturel ambitieux. C'est Athènes qui avait ouvert le bal. En 2013, je le disais, c'était Marseille. 2004, c'était Lille. Et cette année, c'est la ville espagnole de San Sebastian et la ville polonaise de Wrocław.
Europe, réveille-toi, c'est la journée mondiale de la culture chez nous.
Avant la guerre, c'était une ville allemande, Breslau. Maintenant, elle est polonaise.
Pour moi, la culture, c'est de l'air. Cela n'a pas de sens d'imaginer que certains respirent de l'air professionnellement et d'autres de manière non professionnelle. La culture nous aide à comprendre ce que c'est d'être humain. Le spectacle compte quatre esprits. L'esprit de la reconstruction, l'esprit des nombreuses confessions, l'esprit des inondations et l'esprit de l'innovation. Chacun d'eux a un statut symbolique pour la ville. Mais ce n'est que quand ils se rencontrent sur la place Rynek, au cœur de la ville, qu'ils se transforment en quelque chose de nouveau, qui raconte quelque chose sur la ville.
Voilà, ce sera l'occasion bien sûr de mieux connaître cette ville peu connue de Pologne, Wrocław. Quel bilan général, Elsa Vivant, est-ce qu'on peut tirer de cet événement culturel ? Et finalement, en quoi être nommée capitale européenne de la culture, ça change le visage d'une ville ? Est-ce que, à l'instar un petit peu du musée Guggenheim à Bilbao, on peut dire que finalement ce titre de capitale européenne de la culture, c'est devenu une sorte de prétexte lancer de grands projets globaux de rénovation urbaine ? On est un peu dans cette logique-là aussi ?
Je pense que ça dépend des villes, la façon dont les villes se saisissent de l'événement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait quels seront les pays hôtes d'une année sur l'autre, mais au sein des pays, il y a une sorte de compétition entre les villes. Dans le cas français, on a eu deux capitales européennes de la culture, Lille et Marseille, et de reprendre un peu leur histoire est intéressant justement au regard de ça. Dans le cas de Lille, l'organisation de l'événement en fait fait suite à un échec qui était l'échec de l'accueil des Jeux Olympiques, mais qui n'a pas été vécu comme un échec, mais plutôt comme c'était une idée pour mobiliser tous les acteurs locaux autour d'un projet.
Presque un tremplin pour autre chose, finalement.
Un tremplin pour autre chose, qui s'inscrit dans une logique que développe la métropole lilloise, qui est de dire, pour devenir une grande métropole, il faut montrer qu'on est capable d'organiser un grand événement. Les Jeux Olympiques ou autre chose. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est la capitale européenne de la culture. À cette occasion, des équipements ont été créés. Et en fait, ça va être... à l'échelle de la métropole de Lille, une manière de construire aussi son territoire symbolique, parce que l'événement va être organisé sur l'ensemble de la métropole et même côté belge, dans l'idée de se construire comme un ensemble géographique transfrontalier, là où d'autres villes vont concentrer les propositions dans la ville-centre.
C'est un peu un pass pour obtenir son statut de métropole ?
Ça a été pensé comme ça. Ouais. En tout cas, dans le cas lillois, ça a été pensé comme ça. Dans le cas marseillais, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'origine de la candidature. En fait, elle est très portée par la Chambre de commerce. Et rien qu'en disant ça, on comprend dans quelle logique on s'inscrit quand on candidate à ce label.
Dans une logique économique, dans une de rentabilité.
De rentabilité peut-être pas, mais en tout cas de créer un environnement plus propice au développement économique. En partant du constat que l'offre culturelle était jugée comme relativement faible par rapport à des villes comparables et qu'il fallait améliorer les prestations de la ville en matière culturelle. Ce qui a été très intéressant, donc ça a été assez controversé quand même, il y a eu des opposants, tout le monde n'était pas d'accord, mais au sein, donc, et beaucoup de choses ont été concentrées dans le centre de Marseille, avec quand même l'idée de réfléchir à l'échelle de Marseille-Provence, donc avec jusqu'à Aix, Arles, dans un contexte politique où travailler à cette échelle, c'est très compliqué, qui préfigure un petit peu la métropole d'Aix-Marseille qui est en train de se constituer. Et un point qui, moi, me paraît très important, parce que dans tout ça, jusqu'à présent, on ne parle pas vraiment des artistes et de ce qu'ils font, c'est que dans le cas de Marseille-Provence, il y a eu l'idée d'organiser ce qu'ils ont appelé les quartiers créatifs, donc la venue d'artistes dans des quartiers en rénovation urbaine pour travailler pendant une année avec les habitants sur des projets artistiques. Dans certains endroits, ça s'est très bien passé, mais il y a eu un quartier où les associations se sont opposés à cette démarche en arguant que eux avaient beaucoup de difficultés pour obtenir des financements pour leurs activités pérennes et que là, il y avait une sorte d'événement qui concentrait l'attention et les financements aux dépens de leur activité
au quotidien. Ça, c'est vraiment la critique, j'allais dire, principale de cet événement culturel. C'est-à-dire qu'en gros, on considère qu'on ne soutient pas les artistes qui en ont besoin. On considère que les fonds sont principalement dédiés aux grands projets, aux grands ensembles, aux institutions, mais que les petits acteurs de la culture, ce qui constitue finalement le terreau culturel justement de ces villes, bah ils sont laissés de côté. C'est globalement vrai quand on regarde justement l'histoire de ces capitales européennes de la culture, si on met de côté Marseille. Difficile à dire.
C'est difficile à dire.
Par exemple, sur le cas de Glasgow, je sais que sur Glasgow, c'était une des critiques aussi qui avait été formulée. Ouais. Les gens à Glasgow disaient, d'abord, on a, en gros, je caricature un petit peu, mais on a fabriqué une ville à touristes, mais pour nous, les habitants, ça sert pas à grand chose, et pour les artistes, on n'en parle même pas.
Alors, il y a eu d'autres situations où, par exemple, à Liverpool, en 2007 ou 2008, ils avaient mis en place tout un dispositif d'évaluation. Et alors, à la fois l'évaluation en termes de fréquentation touristique, réputation de la ville, etc., mais aussi fréquentation par la population des événements qui étaient proposés, etc., etc. Donc, ils y ont réfléchi en amont. Et je pense qu'à chaque fois, ça dépend vraiment de la manière dont les collectivités pensent leur projet. D'un endroit à l'autre, ça va être pensé différemment.
Une autre critique qui revient régulièrement à Elsa Vivant, c'est que finalement, ces programmes ont tendance à produire de la gentrification, à boboiser finalement les quartiers qui autrefois étaient des quartiers populaires, avec justement une véritable vie artistique, etc. Votre regard là-dessus ?
Alors, ce qui est un constat, c'est que dans les grandes métropoles, les quartiers populaires ont tendance à se transformer progressivement par aussi des effets de pression foncière et immobilière qui portent sur les classes moyennes et qui vont rechercher dans une offre de plus en plus limitée des possibilités d'installation. On a beaucoup dit qu'il y avait un effet d'entraînement de la présence d'artistes dans un quartier sur sa revalorisation symbolique et économique. Je pense qu'il faut être un tout petit peu plus précautionneux en pointant deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il n'y a aucune automaticité d'un mouvement d'attraction qu'engendrerait des artistes sur un territoire, que la vraie question, c'est plutôt comment c'est rendu visible par les artistes eux-mêmes qui se mettent en scène dans la ville, qui organisent des événements, etc., mais surtout par les autres acteurs qui vont instrumentalisé.
Par les élus, c'est-à-dire
par les élus, par les opérateurs locaux. Immobiliers, mmh. par les promoteurs qui vont mettre en scène cette présence pour créer une certaine attractivité ou en tout cas rassurer les gens qui potentiellement pourraient s'installer. Mais ce qui paraît le plus juste, et pas tant de dire que ça crée un effet d'attractivité, mais ça rend visible un mouvement qui est partagé. Les motivations d'installation dans un quartier peut-être moins reconnu, moins réputé, elles sont un peu les mêmes, c'est-à-dire contraintes économiques pour l'accès à un logement, mais aussi centralité, accès aux ressources, accès au marché du travail, qui font que dans les arbitrages, finalement, on a des artistes, mais aussi des salariés des classes moyennes qui vont faire les mêmes choix. Et
oui,
la présence
c'est
artistique
ça.
Le rend visible.
Alors, y a une première. Oui, pardon,
mais
je
ensuite, on peut aussi avoir une mise en scène de ça par des opérateurs immobiliers, par des collectivités qui vont soutenir des initiatives visibles pour transformer l'image de leur territoire en vue de le rendre plus attractif auprès de nouvelles populations.
Oui, c'est ça. On a donc en fait une hyperconcentration des artistes qui peut constituer un argument pour un certain nombre d'acteurs, les agents immobiliers, les responsables politiques locaux, etc. On met en scène en gros un certain bouillonnement artistique pour promouvoir un certain espace urbain. C'est le cas, vous en avez parlé, je crois, dans l'un de vos articles, dans le quartier de Soho, à New York. Mais aussi, vous dites que finalement, c'est pas tant la présence d'artistes précisément qui va engendrer la gentrification des quartiers, mais vous dites que c'est l'arrivée de d'autres populations, ceux que vous appelez les créatifs. Non, je me trompe ?
C'est pas tout à fait comme...
Alors.
Pas moi qui les appelle les créatifs.
Ah pardon, c'est peut-être pas sous votre plume. Alors,
non, c'était pas tout à fait sous ma plume. Disons que cette transformation socio-économique des quartiers populaires, elle se fait par des processus qui sont complexes, qui s'appuient à la fois sur des contraintes qui pèsent, mais sur des artistes, des personnes qui font partie de ces classes moyennes supérieures, mais avec des fragilités économiques, mais aussi par des investissements immobiliers par des gros opérateurs, mais aussi par des politiques menées par les villes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire peser aux artistes qui s'installent, ou à d'autres personnes qui s'installent là et là, soumis à un certain nombre de contraintes, la responsabilité d'une transformation urbaine qui les dépasse. Par contre, on a des politiques urbaines qui mettent en scène cette présence d'artistes, en partant de l'idée que ça va rassurer des personnes qui ne seraient pas venues dans ce quartier-là, que ça va aussi susciter peut-être le développement d'une petite économie de consommation culturelle. Et voilà, qu'il faut...
De Bilbao à Nollywood, quand la ville joue la carte de la culture, dans cette série consacrée aux politiques culturelles, on est avec Elsa Vivant.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
L'appartement qu'on nous propose n'atteint pas la norme fixée par la municipalité. 15 mètres carrés par personne. Voilà pourquoi on n'est pas parti. Et les indemnités qu'on nous propose sont très insuffisantes pour acheter un nouvel appartement.
Ils essayent de jeter dehors les propriétaires actuels des maisons pour pouvoir les rénover et les vendre plus cher. Il y a d'innombrables personnes à Pékin dont les maisons ont été détruites illégalement par la force. Les démolitions à Pékin n'impliquent pas seulement les promoteurs immobiliers, mais aussi la police, le commissariat et le tribunal. Ils viennent tous ensemble.
Vous ne pouvez pas prévoir si votre maison va finalement être détruite. Autrement dit, le gouvernement vous en informera, ou alors il y aura un jour une annonce sur votre mur qui dit que votre maison va être démolie, ou ils dessineront un cercle sur votre maison et elle sera détruite.
Voilà, des propriétaires de vieilles maisons qui, à la veille des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, se faisaient expulser pour moderniser les quartiers afin de construire des installations sportives ou d'accueillir les touristes qui allaient venir au-delà du 4 Pékin. La Chine procède depuis de longues années maintenant à la destruction de vieux quartiers, de vieilles maisons, y compris lorsqu'elle recèle un caractère historique et culturel unique. On est dans une sorte de logique de la table rase. On va en parler justement de cette rénovation urbaine du côté des villes chinoises avec une nouvelle invitée, Françoise Lovard. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sinologue, professeur au laboratoire d'anthropologie des mondes contemporains à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez notamment écrit un article intitulé « L'empire de l'éternel présent dans les musées de la République populaire de Chine » dans lequel vous expliquez que depuis les années 80, en gros, la Chine a modernisé la plupart de ses grandes villes, ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'existe quasiment plus de vieux quartiers, de centres historiques. Pékin en est évidemment l'un des exemples. En revanche, Françoise Lovart, et c'est là que c'est intéressant, les autorités construisent des vieux quartiers avec du neuf. En gros, on construit des lieux touristiques, des espaces où on va pouvoir aussi faire venir des touristes, faire du commerce. Françoise Lovart.
Oui, mais je vais tout de suite vous faire une petite remarque.
Je vous en prie.
Quand vous dites qu'on a reconstruit la plupart des villes, c'est pas la plupart des villes, c'est toutes les villes. Et ce caractère absolument massif et extraordinairement rapide de cette transformation, je dirais non seulement des villes, mais aussi du pays tout entier, parce que il y a 40 ans, la Chine était une grande culture rurale, avec aussi une architecture vernaculaire extrêmement diversifiée dans les campagnes, etc. Donc c'est quelque chose dont le caractère absolument global, massif, n'est souvent pas perçu par ceux qui n'ont pas arpenté ce pays.
Et ça fait longtemps, Françoise Lovart, qu'on est justement dans cette logique, d'une certaine manière, de la table rase, ou est-ce que c'est relativement récent? Est-ce qu'en gros, c'est depuis l'avènement de la République populaire de Chine, ou est-ce que c'est déjà avant?
C'était déjà avant, mais sous une forme beaucoup plus atténuée, parce que l'État n'avait pas la puissance qu'a l'État chinois actuel, que les milieux cultivés, entre guillemets, aussi conservateurs, freinaient. Le pays a été aussi longtemps divisé. Les guerres ont beaucoup détruit également, ce qui a, disons, renforcé cette tendance à la table rase. Mais en gros, depuis, je dirais, le début du XXe siècle, le fantasme des dirigeants est véritablement de moderniser le pays et d'effacer quelque chose que j'appellerais à la limite son caractère un petit peu trop chinois, si vous voulez.
Vous dites le fantasme des dirigeants, mais de quels dirigeants? Est-ce que c'est quelque chose qui est décidé par le gouvernement central, ou est-ce que ce sont les localités, les régions, les villes qui, avec une certaine autonomie, eh bien, décident de ces politiques de rénovation urbaine?
Ça dépend des époques, bien sûr. La période maoïste était beaucoup plus centralisée, mais finalement, les destructions ont été moins massives. Ce sont des destructions qui ont avant tout ciblé ce qui pouvait évoquer le passé impérial, ce que les Chinois appellent du féodal. On n'est pas du tout dans la féodalité, mais ils appellent féodal en fait ce qui correspond à ce qu'ils n'aiment pas dans leur passé. Et donc vous avez eu un urbanisme soviétique, parce que la Chine a été influencée par l'Union soviétique, qui est venu se superposer. Ça se voit très clairement à Pékin, qui est venu se superposer sur la ville impériale avec la mise en place de cette énorme place, la place Tiananmen, qui est un désert maintenant. C'est plus grand que l'État du Vatican, la place Tiananmen. C'est un trou désert au milieu de la ville, qui était conçu pour les manifestations, etc. Le tracé des grands axes. Actuellement, c'est plus complexe parce que vous avez un rôle important qui est joué par les autorités locales dans une espèce de compétition à la modernité et au prestige. Et puis vous avez ces liens tout à fait étroits entre le monde politique et le monde du business, qui fait que très souvent, soit de manière tout à fait évidente, à travers une seule personne, soit par des liens de relations, ce que les Chinois appellent les guanxi, tous ces réseaux de relations, très souvent le pouvoir local se met d'une certaine manière au service de promoteurs, de projets de développement parfois assez pharaoniques, notamment après 2008. On parle toujours des Jeux Olympiques, ça a été important, mais ce qui a été très important aussi, c'était la grande crise mondiale, avec cette sortie de crise qu'a entreprise la Chine, notamment par la mise en place d'énormes travaux, pas nécessairement tous extraordinairement utiles, mais qui ont redonné des vitamines à ce fameux PIB qui est toujours montré en exemple.
Et puis peut-être que ce qu'on peut ajouter, Françoise Lovard, dans cette politique de la rénovation urbaine, c'est que cette approche consistant à détruire les vieux quartiers pour en construire de nouveaux faux quartiers historiques, c'est aussi une stratégie qui s'inscrit dans ce besoin de ne pas trop laisser de place aux minorités ethniques et culturelles et de garder une certaine cohérence nationale d'ensemble. On a vu par exemple tout ça du côté d'Urumqi, la capitale du Xinjiang, où vivent les populations ouïghours qui font l'objet, on sait, d'une politique assimilationniste pour étouffer un peu les revendications de leurs droits culturels. Certains vieux quartiers ouïghours ont été totalement détruits, reconstruits en faux, avec de fausses maisons typiques dans lesquelles se sont installées d'ailleurs des populations un peu moins récalcitrantes, et notamment des populations Han, l'ethnie majoritaire, qu'on incite justement à s'installer sur place. Donc on voit que cette rénovation urbaine, elle peut être aussi un outil politique qui sert cette mission-là. Est-ce que les plans de rénovation urbaine, Françoise Lovart, sont très différents d'une ville à l'autre, ou est-ce que finalement on reconstruit et on développe selon des schémas parfaitement similaires, et par conséquent, est-ce qu'il y a une certaine uniformisation des villes, à la fois dans leur forme, mais aussi dans l'organisation sociale qui va en découler ?
Françoise Lovart. Oui, il y a une très grande uniformisation des villes dans les schémas, dans les formes des bâtiments, c'est très clair, vous avez des immeubles de prestige que vous retrouvez dans plusieurs villes pratiquement à l'identique, et aussi dans cette volonté d'un développement vertical, enfin qui est expliqué par des nécessités soi-disant d'occupation de place, mais qui correspond aussi à une politique de prestige. La modernité, c'est la verticalité. Mais en ce qui concerne les faux vieux quartiers qu'on voit partout, hein, maintenant, vous avez chaque ville à son vieux quartier, qui est en fait un quartier ancien qui a été refait, et qui a été redimensionné de manière à l'adapter davantage à la circulation, par exemple, ou à lui donner à construire des bâtiments plus importants. Là, au contraire, vous avez une volonté, je dirais, presque de folklorisation qui va aller vers le typique. On va vous créer un faux quartier ouïghour ou tibétain plus vrai que l'ancien. Parce que ce que vous avez dit pour le Xinjiang vaut évidemment également pour le Tibet, mais vaut pour toute la Chine.
Un mot de réaction, Elsa Vivant, sur cette question justement d'homogénéisation des villes. Est-ce que c'est pas quelque chose aussi qu'on constate du côté de l'Europe ?
Absolument. Du moment où on se définit les mêmes objectifs, qu'on met en œuvre les mêmes stratégies, qu'on s'appuie sur les mêmes types d'acteurs, ça produit des choses très similaires avec quelques spécificités nationales. Mais il y a une tendance à produire la même ville, pas forcément dans sa morphologie, dans sa forme, mais en tout cas dans ses ambitions, à savoir une ville qui est plutôt destiné à des classes moyennes, supérieures, à des visiteurs, qui posent la question aussi de l'économie touristique en ville et de la touristification des grandes villes et des effets que ça peut avoir sur les habitants. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver à Paris, à New York, à Bruxelles.
Françoise Lovart, on disait, il y a effectivement cette logique de la table rase et donc de la destruction de ces vieux quartiers. Donc finalement, on pourrait se dire, mais les Chinois n'ont que faire de l'authentique, de l'histoire, de la culture. C'est pas tout à fait vrai, parce que justement, la Chine, on le dit souvent, c'est un pays de tous les paradoxes. Et vous dites que depuis quelques années, en parallèle à ça, on a aussi une préoccupation nouvelle pour cette culture, pour cette histoire nationale, qui s'incarne dans la création de nouveaux musées nationaux. Vous parlez d'une véritable fièvre muséale. En quoi, justement, ces nouveaux musées vous semblent s'inscrire en rupture par rapport à ce qui existait déjà?
Oui, je vais vous répondre, mais je voudrais tout de même
réagir
une seconde à cet absolument que j'ai entendu. Je pense que si on n'a pas arpenté la Chine, si on n'a pas vécu la Chine, on ne se rend absolument pas compte du caractère massif, caricatural de ce qui se passe et qui n'a pas grand-chose à voir, je pense, avec la situation de Paris ou même de Bruxelles, qui est une ville qui a été ravagée. Donc je ferme la parenthèse. Pour en revenir au musée, alors bien sûr, les musées, ben, c'est dans les musées qu'on peut voir les choses anciennes, finalement, hein, puisque le passé a été quand même extraordinairement gommé, sauf sous la forme de ces espèces de villages folkloriques ou de quartiers folkloriques. Donc, les musées sont fréquentés parce que les Chinois ont un désir de se... ils ont une fascination pour leur propre culture et ils ont un désir de voir des choses belles aussi. Alors, ces musées sont en général énormes. Donc, ils ont été reconstruits pour la plupart. Donc, ce sont des projets de prestige, encore une fois, avec énormément de places, d'espace, enfin, par rapport aux salles d'exposition. Et donc, ce sont des musées aussi qui sont très chargés, c'est-à-dire qu'il y a énormément de commentaires par rapport aux objets montrés, notamment énormément de choses à lire sur les murs, etc., qui vous guident comme des rails dans une certaine lecture historique du passé chinois, parce que une chose qu'il faut dire, c'est que cette reconstruction des villes et de ces faux quartiers, de ces musées, de films historiques, etc., s'inscrit dans un courant de réappropriation de l'histoire chinoise, une histoire chinoise valorisante, un petit peu dégagée de son... De ces traits un petit peu gênants, hein, et qui correspond à une politique néo-impériale.
On est en train de vous perdre, la ligne est en train de se perdre doucement, mais on comprend cette logique de réappropriation d'une certaine histoire nationale à travers ces musées. En tout cas, un grand merci Françoise Lovart d'avoir été avec nous. On va changer de continent, on va passer de l'Asie à l'Afrique, on va aller du côté de Lagos, et pour parler de Nollywood, ce cinéma nigérian, né dans les rues de Lagos, justement grâce au commerce informel des vendeurs de rue à la fin des années 80, mais c'est vrai qu'il s'est considérablement développé un petit peu plus tard, dans les années 90-2000, d'abord parce que de nombreux professionnels qui n'avaient pas toujours la possibilité de travailler dans le secteur formel, disons, eh bien, se sont détournés vers ce secteur-là, mais aussi parce que les amateurs s'y sont mis, et notamment grâce aux nouveaux outils numériques qui ont démocratisé cette pratique. Aujourd'hui, Nollywood, et je le disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est la deuxième industrie cinématographique au monde, en tout cas en nombre de films, devant les États-Unis, donc, mais derrière le cinéma indien. Peu à peu, ce cinéma nigérien, il s'est diffusé un peu en dehors des cercles relativement fermés où il est né. On parle d'un public régulier de 150 millions de spectateurs quand même. On va retrouver un nouvel invité, Alexandro Jedlowski, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche en anthropologie visuelle à l'Université de Liège. Vous êtes un spécialiste de ce cinéma nigérian. Alors, Nollywood, né dans les rues de Lagos, sur les marchés où on pouvait acheter ses cassettes VHS. Ce sont justement sur ces supports VHS qu'au départ, on va commencer à tourner ces petits films amateurs. C'est assez extraordinaire de se dire que quand même, cette pratique, au départ, est dans un but totalement non lucratif, soit devenue aujourd'hui, en quelques années, l'un des secteurs économiques majeurs de la ville. Aujourd'hui, Nollywood, et en particulier à Lagos, c'est une source d'emploi extraordinaire.
Oui, tout à fait. C'est une histoire incroyable et c'est peut-être pour ça aussi que depuis quelques années, on en parle et on prend plaisir à en parler aussi à l'international parce qu'on avait souvent entendu parler du Nigeria et toujours au négatif. Et ça, c'est une histoire de succès, disons, une histoire positive qui est émergée du Nigeria et notamment du sud de Nigeria, de Lagos, et qui fait plaisir d'entendre. C'est une histoire particulière parce que, voilà, le terme Nollywood peut faire imaginer comme un lieu, comme quand on pense à Hollywood, un lieu spécifique dans la ville de Lagos, mais en fait, il s'agit d'une industrie qui est totalement éparpillée dans la ville et constituée un espace urbain particulier. C'est pas très visible quand on arrive en ville. On l'aperçoit surtout par la présence de petites salles de visionnage informelles, par les vidéocassettes, voilà, les CD qui circulent, mais on n'arrive pas vraiment à la saisir, disons, dans le panorama, dans le paysage urbain.
Il y a quand même des quartiers dans ce paysage urbain où on voit quand même cette économie de façon particulièrement prégnante. Je pense au quartier, par exemple, Sourouléré, je ne sais pas si je prononce correctement, mais que ce quartier où les tournages s'enchaînent, où on a beaucoup de maisons de production qui sont installées. C'est un quartier quand même dont la vie tourne autour de cette activité cinématographique. D'ailleurs, on pourrait se demander si aujourd'hui, c'est un quartier qui a changé justement avec l'évolution de cette industrie, parce que autant c'est vrai, je mettais le doigt tout à l'heure sur le fait que c'était d'abord un secteur tout à fait, disons, informel, d'amateurs, etc., etc. Mais c'est en train de changer. Quand on voit, par exemple, les budgets aujourd'hui dont disposent certains films hollywoodiens, on a parfois des choses qui sont pas très, très, très loin de ce qu'on retrouve du côté d'Hollywood. L'un, par exemple, des derniers films phares de Hollywood, c'est The CEO, le PDG, d'ailleurs, dans lequel joue la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Et je crois que le budget est à plus $1 million. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une sorte de professionnalisation de tout ça et qu'il y a une montée en puissance sur le plan financier. Est-ce que c'est quelque chose qui transforme précisément le paysage urbain et peut-être en particulier justement ce quartier dont je parlais?
En partie, c'est-à-dire qu'à Sourouléré, disons qu'il y a eu. C'était le quartier fondamental de l'industrie, surtout au début. Mais il faut dire que dans Hollywood, la figure centrale, même au niveau de l'économie, de l'industrie, c'est celle de distributeurs. Donc en fait, les distributeurs étaient plutôt localisés, tandis que c'est les producteurs qui ont leur base, disons, opérative. Les distributeurs se trouvent plutôt dans les marchés. Et au début, c'était Idoumod dans l'île de Lagos Island. Et puis Alab, c'est un grand marché de technologie et de l'électronique qui se trouve un peu à la sortie de Lagos. Donc en fait, Sourouléré s'est modifié, un cinéma est construit, un peu la transformation du quartier reflète cette transformation de Hollywood, et notamment le passage de la cassette et le retour vers la salle. Mais ce qui est l'autre grande transformation, c'est l'entrée, disons, massive des compagnies étrangères. On voit Iroko TV, c'est la première plateforme de distribution de vidéos en ligne qui est née dans la diaspora, est née à l'étranger, mais qui est maintenant à essayer de se réinstaller au Nigeria. Mais c'est vraiment aussi en suivant la trajectoire, par exemple, de l'expérience d'Iroko TV, qu'on voit à quel point Lagos est aussi une ville qui résiste en quelque sorte à des mécanismes de gentrification qu'on peut voir ailleurs, parce que il y a des problèmes de spécificités, notamment la question de l'électricité, le fait que il s'agit d'une ville voilà de presque 20 millions d'habitants, tout à fait moderne quand on la voit dès qu'on arrive, disons, sur Lagos Island, mais qui fonctionne malgré pratiquement le manque d'électricité. Donc ça pose évidemment des grands soucis à qui veut faire à qui veut investir à Lagos. Et du coup, ça reste maintenant ces nouvelles entreprises s'établissent plutôt à Victoria Island, dans les quartiers branchés, les quartiers plus riches de la ville. Et ils ont un peu de laisser à côté ce qui étaient les quartiers entre guillemets traditionnels de l'industrie, comme Sourouléré ou même Alab, disons.
C'est intéressant, Elsa Vivant, parce que dans ce cas précis, on n'est pas dans une situation où, au fond, c'est les décideurs publics, l'action publique qui va modifier, qui va transformer le paysage urbanistique. On est là dans tout à fait l'inverse. Finalement, ce sont les individus, les communautés, les sociétés qui, par le bas, finalement, impulsent quelque chose et transforment le paysage urbain. Alors évidemment, on n'est pas sur des transformations qui sont comparables. On n'a pas ces grands ensembles, comme on a pu le voir tout à l'heure sur les capitales européennes de la culture. Mais c'est intéressant de voir que, d'une certaine manière, la transformation part de la base ici.
Ce qui est intéressant avec le cas de Nollywood, c'est d'abord que ça oblige à enquêter des situations où la filière est pas du tout, les filières de production culturelle sont pas du tout organisées comme en Europe, et donc remettre en question, ou en tout cas nous permettre de mieux comprendre comment d'autres modèles économiques en matière de production culturelle et de diffusion peuvent fonctionner. Et surtout, on peut le regarder en miroir des politiques de développement économique qui s'appuie sur le soutien aux industries culturelles qui se développent aujourd'hui dans les villes européennes, en partant du présupposé que ce sont des industries qui ont besoin de la proximité. Or, le cas de Nollywood, mais aussi d'autres situations, interroge ce besoin de proximité. Il y a aussi besoin d'infrastructures, l'électricité, mais il y a aussi des questions de fiscalité qui vont beaucoup jouer parce que ce sont des productions qui sont finalement tout aussi mobiles que les autres, avec un dumping fiscal qui se fait aussi dans ces secteurs-là, ce à quoi on n'est peut-être pas assez attentif.
Merci beaucoup, en tout cas Alexandro Jedlowski qui était avec nous en direct de Liège. Et un grand merci à vous, Elsa Vivant, de nous avoir accompagnés ce matin. On peut retrouver bien sûr nos discussions sur la page de France Culture, sur la page de Culture Monde.